Notre conférencier d'aujourd'hui, il s'agit de Yves Meyer. Il est né en 1939 à Paris. Il est agrégé de mathématiques et ancien élève de l'école normale supérieure. Il a été professeur d'université, professeur notamment à l'université Paris-Sud Orsay, puis professeur à l'école polytechnique, professeur à l'université Paris-Dauphine. Il a été un moment détaché au CNRS en 1995-1999 et il est de nouveau professeur à l'université de Paris-Dauphine. Il est membre de l'Académie des sciences. Il a reçu un certain nombre de prix. Je ne vous lirai pas ses publications, disons techniques, la liste de ses publications techniques, mais je signale, concernant le sujet du jour, Ondelet et algorithmes concurrents, paru chez Hermann en 1992. Je signale aussi, puisque quelqu'un a eu la gentillesse de l'apporter aujourd'hui, c'est que vous pouvez trouver une de ces leçons de mathématiques dans un recueil paru chez Cassini, leçons de mathématiques d'aujourd'hui, où vous retrouverez un certain nombre des conférenciers que nous faisons intervenir dans cette série. Le papier est à votre disposition, l'annonce de cette publication est à votre disposition en haut. Voilà, je vais laisser la parole à Yves Meyer pour son intervention d'une cinquantaine de minutes sur la révolution numérique et les ondelettes. Merci.
Oui, c'est évidemment une double appréhension de parler à la fois de mathématiques et de parler le 18 juin, qui est une date historique. Et en fait, d'une part, je ne vais pas parler de mathématiques, puisque les ondelettes ne sont pas un chapitre des mathématiques. Je vais parler d'une aventure intellectuelle. Et vous allez voir que par certains aspects, les racines historiques de cette aventure intellectuels rejoignent l'appel du 18 juin. Donc nous allons nous trouver dans un synchronisme historique très fort. Donc je commence par les ondelettes, et si on m'a demandé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet populaire. Et pourquoi est-ce un sujet populaire? C'est un sujet populaire dans la mesure où il s'agit de connaissances qui interviennent dans beaucoup de secteurs de la technologie contemporaine, en particulier à l'heure actuelle dans le multimédia, dans la révolution numérique, dans, par exemple, le son Dolby dont vous êtes affligé lorsque vous voyez des films avec son numérique. Ceci est un produit des recherches conduites sur les ondelettes. Donc il y a dans les ondelettes une sorte de familiarité avec le monde qui nous entoure. Et ceci est un peu en contraste avec d'autres thèmes scientifiques qui sont beaucoup plus ésotériques et qui sont évidemment les grands équipements. On pense à toutes les recherches qui se font à l'aide du rayonnement synchrotron. J'ai eu des démêlés avec l'ancien ministre de la Recherche et de la Technologie à ce propos. Il y a donc aujourd'hui une opposition entre deux secteurs scientifiques, l'un qui s'occupe de réalité humaine immédiate qui nous touche, qui s'occupe du son, de l'image, du langage, aussi des sciences cognitives, et un autre aspect de la recherche scientifique qui utilise des moyens un peu exceptionnels, tant sur le plan financier que sur le plan de la taille des instruments, et qui s'occupe de questions plus ésotériques. En fait, cette dispute est passionnante et très troublante. À l'Académie des sciences, il y a 15 jours, Pierre-Gilles de Gennes présentait l'importance de ce qu'il appelle les recherches sur la matière molle, qui sont un secteur émergent, demandant peu de moyens financiers, peu d'équipements lourds, et qui lui paraissait d'une actualité brûlante. Et en faisant sa présentation, évidemment, il s'opposait au lobby conservateur, et ce qu'il avait dans sa ligne de mire, c'était les grands équipements. Donc il y a réellement problème. Il y a émergence à l'heure actuelle de nouveaux champs intellectuels, de nouveaux champs scientifiques, et ces champs scientifiques deviennent immédiatement populaires dans la mesure où ils concernent des sujets qui n'ont pas été beaucoup étudiés avant. Il y a une jolie citation de Prigogine qui dit dans un ouvrage qui s'appelle « Les lois du chaos » « Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement ce que nous pouvons prévoir avec certitude. » Et il dit « La physique classique s'intéressait avant tout aux horloges. » Il s'amuse sur le mot « horloge », synonyme d'une extrême précision et d'une mécanique. La physique d'aujourd'hui s'intéresse plutôt aux nuages. Et donc, les nuages, ça nous amène, par exemple, à la démarche de Benoît Mandelbrot. Les formes des nuages, comment peut-on les représenter par les fractales ? Donc, les fractales deviennent à la mode. En même temps, le mathématicien Thom, lui, va s'occuper de ce qu'il appelle la théorie des catastrophes. Et cette théorie a pour but de traiter des problèmes extrêmement généraux comme la morphogenèse, la genèse des formes dans le développement embryonnaire, la structure du langage, etc. Il y a à l'heure actuelle un certain nombre, je dirais, de développements intellectuels, d'aventures intellectuelles qui sont médiatiques, qui sont populaires du même coup, et la conséquence, évidemment, c'est qu'elles finissent par être regardées par les scientifiques avec un très grand scepticisme. Parce qu'elles peuvent aussi apparaître comme des choses à tout faire, des recettes passe-partout qui permettent de tout expliquer à peu de frais. Voici la situation, et les ondelettes font partie de cette situation. C'est-à-dire qu'elles sont devenues très populaires, elles interviennent dans de nombreux secteurs de la technologie, et en même temps, il y a des grands laboratoires scientifiques, mathématiques, je ne voudrais pas citer d'exemple, dont les membres aussitôt se hérissent de colère quand ils entendent le mot ondelette et aussi quand ils entendent le mot fractal, parce que ça leur fait penser à des gadgets à la mode. Alors qu'en est-il ? Et pour comprendre ce qu'il en est des ondelettes, il faut retourner à l'histoire du sujet. C'est-à-dire, d'où sont-elles venues, d'où sont venues les recherches sur les ondelettes, quelle est leur source. Évidemment, la source principale de tous ces travaux a été une autre aventure intellectuelle qui a été proposée, déclenchée il y a à peu près 2 siècles par Joseph Fourier. Et je ne peux pas résister à la tentation de vous lire juste 2 pages de Joseph Fourier, parce que le climat de ces pages, c'est exactement le climat qu'on va retrouver dans 2 aventures semblables. D'une part, l'aventure qui a été lancée en 1944 sous le nom de l'Institute for the Unity of Science aux États-Unis par von Neumann et Norbert Wiener, et d'autre part dans l'aventure ondelette. Donc il y aura 3 temps historiques qui vont nous ramener à l'aventure des ondelettes. Donc le texte... Voilà. Le texte de Fourier est le suivant. Alors le zoom n'est pas parfait. Alors, je vais plutôt le lire que vous présenter, parce que c'est relativement illisible sous forme de transparent, vu que le zoom n'est pas très bon. Il dit, voilà, « L'étude approfondie de la nature est la source la plus féconde des découvertes mathématiques. » Ce qui, à notre époque, est presque révolutionnaire, compte tenu de la façon dont les mathématiques ont été présentées dans l'enseignement les 20 dernières années. Non seulement cette étude de la nature, en offrant en recherche un but déterminé, a l'avantage d'exclure les questions vagues et les calculs sans issue. Et il continue en disant « Si la matière nous échappe, comme celle de l'air et de la lumière, par son extrême ténuité, si les corps sont placés loin de nous, dans l'immensité de l'espace, si l'homme veut connaître le spectacle des cieux, pour des époques successives que séparent un grand nombre de siècles, si les actions de la gravité et de la chaleur s'exercent dans l'intérieur du globe solide à des profondeurs qui seront toujours inaccessibles, l'analyse mathématique peut encore saisir les lois de ces phénomènes. Elle nous les rend présents et mesurables, et semble être une faculté de la raison humaine destinée à suppléer à la brièveté de la vie et à l'imperfection des sens. Et ce qui est le plus remarquable encore, elle suit la même marche dans l'étude de tous les phénomènes, elle les interprète par le même langage, comme pour attester l'unité et la simplicité du plan de l'univers et rendre plus manifeste cet ordre immuable qui préside à toutes les causes naturelles. Donc ce texte est extrêmement émouvant parce qu'il s'agit évidemment d'un programme, en particulier du programme de l'investigation de l'univers à l'aide de l'analyse mathématique. Alors là, je vais tout de suite faire une petite digression pour rentrer dans le concret. Et comme on est au XXe siècle et qu'on dispose de la technologie du web, je vous propose un site web et je vais vous montrer ce qu'on peut voir sur ce site web. Donc le site web, c'est le site des images du satellite Hubble. Et il n'y a pas le triple W n'y est pas, faites attention. Donc le site, c'est opposite, exactement comme c'est écrit, .stsci.edu. Et vous faites return, naturellement, et vous avez toutes les images qui ont été acquises par l'observatoire satellite Hubble, et vous allez dans la rubrique galerie, et ensuite vous allez dans la rubrique Hubble Pictures, et vous tombez immédiatement sur l'image que je vais vous montrer, et qui s'accorde absolument, d'une part avec le programme de Fourier, d'autre part avec le programme ondelette, parce que ces images ont été analysées, débruitées, à l'aide des ondelettes, en suivant la prophétie de Fourier. Donc c'est ça qui est particulièrement émouvant, c'est que deux siècles à l'avance, Fourier prévoyait exactement ce qu'il disait dans le spectacle des cieux pour des époques successives, que c'est par un grand nombre de siècles. C'est d'autant plus remarquable et d'autant plus passionnant que le satellite Hubble a été lancé pour explorer les confins de l'univers et que les confins de l'univers nous sont essentiels pour comprendre comment, à partir du rayonnement fossile totalement homogène, des objets d'une telle complexité géométrique que les galaxies ont pu se former. Donc, précisément, le lancement du satellite Hubble suit le programme de Fourier. Et les premières images fournies par Hubble présentaient un très grave défaut. Le défaut était le fait que le premier miroir avait une défaillance au point de vue de sa géométrie. Et donc, d'une part, les images étaient entachées d'un bruit de fond, mais elles étaient déformées par la mauvaise construction du miroir. Donc, voici l'explosion d'une supernova. Cette supernova s'appelle S1987A. L'histoire est passionnante. Elle a été observée donc, en février 1987 dans un observatoire qui se situe aussi au Chili, qui s'appelle la CIA, c'est le nom de la montagne, et l'anecdote dit que l'astronome américain qui était responsable de la nuit d'observation avait trop bu de vin chilien et dormait. Et c'est un technicien chilien qui l'a réveillé en pleine nuit en lui disant qu'il se passait quelque chose de totalement spectaculaire dans le ciel, parce que l'explosion d'une supernova est un phénomène qu'on voit pendant quelques jours à l'œil nu. Et du coup, évidemment, tous les instruments ont été pointés dans la direction indiqué par le technicien, et lequel technicien a disparu de la liste des auteurs qui ont signé la première publication. Pourquoi on voit une matière éjectée qui est loin de la partie centrale? C'est tout simplement parce que le satellite Hubble a été lancé en 1990, donc 3 ans après que la supernova ait explosé. Comme vous le savez sans doute, les supernovas ont un nom qui prête à confusion parce qu'en réalité, ça correspond à la fin de certaines étoiles. C'est le moment où l'étoile meurt et elle meurt dans un gigantesque feu d'artifice qui est la supernova. Et c'est ce que vous voyez. Notre Soleil ne terminera pas comme ça. Il a une autre fin prévisible qui est, disons, beaucoup plus déplaisante encore pour nous. Mais ceci n'est pas notre objet. Et qu'est-ce qu'on fait sur cette image? Alors, sur cette image, on voit quelque chose qui correspond à l'idée que les astronomes se font de la matière éjectée, qui est cette espèce de grand anneau, et un très grand nombre de points plus ou moins brillants qui sont dont on ne sait pas très bien la signification. Donc il y a un problème qui est d'extraire de cette image une information qui soit pertinente. Et ce problème s'appelle le débruitage. Donc ce que vous voyez sur le site web, ce n'est pas cette image, c'est celle-là exactement. C'est la même à grand champ. Alors différentes techniques de débruitage de l'image, c'est-à-dire de nettoyage, ont été utilisées. Je les présente juste pour le propos de ma démonstration, et ensuite vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'inattendu. Donc ça, c'est une méthode qui a été utilisée par les astronomes pendant très longtemps, qui s'appelle l'algorithme LUCI. Vous avez une méthode qui s'appelle la méthode du maximum d'entropie pour nettoyer l'image. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup moins de points blancs parasites entre le cœur, c'est-à-dire une étoile à neutrons, et la matière éjectée. Donc l'autre, c'est la méthode du maximum d'entropie qui est très connue. Et vous avez enfin les meilleures images qui ont été obtenues à partir de cette image primaire sont les images qui ont été obtenues par une technique développée à l'observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse. Et on aperçoit qu'il y a une bonne définition géométrique à la fois du centre, de la matière éjectée, etc. Donc on a extrait, là il y a eu un congrès international qui s'est tenu à Philadelphie, toutes les méthodes ont été comparées, la méthode par ondelette a été considérée comme étant la meilleure. Et un an après le congrès de Philadelphie, il y a une mission qui a été envoyée sur le télescope, vous le savez, et le miroir a été réparé. Le miroir a été réparé, et évidemment, on s'est empressé de prendre une nouvelle image de cette supernova, qui était un objet d'étude fort intéressant. On a pris une nouvelle caméra, on a pris une nouvelle image, et voici ce qu'on observe. On observe quelque chose de complètement différent. Et c'est le point le plus saisissant, c'est pas tellement le changement de couleur, parce que les couleurs sont artificielles, mais ce sont les deux oreilles, ces deux anneaux qui entourent le cœur central, et il y a des tonnes de littérature sur ces anneaux, parce que personne ne connaît leur signification. Et j'en ai causé avec Evry Schatzman, qui a son interprétation. En lisant la littérature qui est fournie sur le site Hubble, vous avez d'autres explications, etc. Qu'est-ce que signifient ces remarques? Ça signifie que, quelle que soit la perfection des techniques de débruitage obtenues par les ondelettes, il y a malgré tout un moment où notre savoir-faire va buter, et va buter sur, évidemment, la mauvaise acquisition ou la bonne acquisition de l'image. Et là, il y a un phénomène qui doit nous rendre extrêmement modestes sur le traitement de l'image, sur la manipulation de l'image, sur ce qu'on pourra faire par les ondelettes, sur la révolution numérique, etc. Il y a malgré tout une différence entre une image débruitée et la vraie connaissance. La vraie connaissance dépend évidemment de la qualité des capteurs, et c'est pour ça que l'aventure ondelette ne peut pas être dissociée à la fois des progrès de la technologie, des progrès de la science et des progrès de la connaissance. Donc ça, c'est l'aspect qui a été prévu par Fourier. Et maintenant, je retourne un tout petit peu au cœur des ondelettes en expliquant qu'est-ce qui s'est passé après Fourier. Alors, je donne juste je présente un dessin mathématique sur le type d'analyse que proposait Fourier. Donc, au XVIIIe siècle, les seules fonctions dont on disposait pour faire des calculs étaient des polynômes. Or, les polynômes sont des courbes qui ont des formes extrêmement simples, et à la fois simples et très rapidement extrêmement abruptes. Et on voit très bien que utiliser des polynômes ne permet évidemment pas la prédiction à long terme, parce que dès que la variable est grande, le polynôme explose, et donc les erreurs vont augmenter de façon catastrophique, et ça ne permet pas la prédiction. Donc ça, on s'en est rendu compte relativement tôt, et Fourier proposait d'utiliser les ondes comme briques de base pour étudier, analyser tous les phénomènes. Donc il proposait que tous les phénomènes puissent avoir une description en superposition d'ondes sous forme vibratoire. Ça, c'est l'analyse de Fourier qui est une analyse qui a conduit à ce qu'on appelle les séries de Fourier, etc., des tas de mécanismes pour décomposer tout ce qui vous tombe sous la main sous forme ondulatoire. Au point de vue de la technologie, d'ailleurs, il importe de dire que le traitement d'image qui est encore à l'heure actuelle utilisé est basé, c'est-à-dire ce que la façon dont vous recevez les images, dont elles sont télédéchargées sur le web, utilise une technologie qui est directement dérivée de Fourier, qui s'appelle la technologie JPEG, et qui est tout simplement une application de la méthode de Fourier au traitement d'image. Ce qui montre que cette méthode de Fourier a une vie relativement longue au niveau technologique. Ça montre aussi qu'il y a un retard de la technologie sur la science, mais le nouveau standard de compression de l'image, qui s'appelle JPEG 2000, va utiliser les ondelettes. Donc j'en parlerai dans un instant. Alors, la critique de Fourier était évidente lorsque on traite le son, on traite le son ou la musique, etc. Et la critique, une critique très amusante a été décrite par Will, et Will observe la chose suivante. Il dit, si nous considérons en effet un morceau de musique contenant plusieurs mesures et qu'une note, comme le « la », figure une fois dans le morceau, l'analyse harmonique, c'est-à-dire l'analyse de Fourier, nous présentera la fréquence correspondante avec une certaine amplitude, mais sans localiser la note dans le temps. Et il dit, il est évident qu'il y a des moments où on n'entend pas cette note. Et si on n'entend pas, ce n'est pas parce qu'elle est compensée, comme dans l'analyse de Fourier, avec des interférences destructrices par d'autres notes, mais parce qu'elle n'est pas émise. Donc, que dit Will ? Il dit que ce type d'analyse est évidemment une prouesse de mathématicien, l'analyse de Fourier, mais que la seule raison pour laquelle on n'entend pas le « là », c'est que le « là » n'est pas émis. Donc ça, c'est un article de 47 de Will, qui reprend des idées, d'ailleurs, qui appartenaient à Wigner un peu avant, qui avaient été émises par Wigner, et qui faisaient partie d'un gigantesque programme qui est apparu à Harvard, à l'université de Harvard, et au MIT en 1944. Je vais dire quelques mots de ce programme, parce que ce programme m'amène à parler de l'appel du 18 juin. Ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une découverte vraiment bouleversante, c'est que les mathématiciens servaient à quelque chose. Alors, il y a plusieurs exemples, j'en donne deux. Il y a évidemment l'exemple de Turing. Turing est un logicien anglais dont les travaux, qui a une vie très malheureuse parce qu'il était homosexuel, et dont les travaux, et ensuite il a été condamné après l'effort qu'il avait accompli en faveur de l'Angleterre, il a été condamné pour homosexualité. Il a cassé le code qui s'appelait Enigma, qui était utilisé par les Allemands, par les officiers nazis, pour communiquer avec leurs sous-marins. Donc, à l'aide de ses connaissances de logique, et à l'aide d'un travail en collaboration avec évidemment beaucoup d'autres personnes, Turing est arrivé à casser le code Enigma. C'était une prouesse qui était absolument extraordinaire parce que les Allemands pensaient que le code ne pouvait pas être cassé. Et en même temps, Norbert Wiener avait travaillé sur un autre problème lié à la bataille d'Angleterre, qui était de régler de façon automatique les directions de tir de la DCA pour anticiper le vol des bombardiers allemands. Donc, avant, ça se faisait au jugé, et évidemment, toute personne, tout chasseur, anticipe le mouvement du gibier et tire un peu en avant. Il fallait un calcul relativement automatisé, relativement précis, pour pouvoir faire ça sur la DCA. Et c'est ce qu'a fait Norbert Wiener. Et donc, ces recherches ont permis de conclure, de même ce que Eugène Wigner a fait dans son travail pour le projet Los Alamos, etc., ont permis de conclure au fait qu'il pouvait y avoir une fertilisation croisée entre des méthodes de travail intellectuelles qui venaient des mathématiciens et une problématique qui venait du monde extérieur. Donc ça a été le point de départ de quelque chose qui s'est appelé l'Institute for the Unity of Science, qui a été une construction, un institut sans mur, et en fait qui a été un groupe de travail. Et parmi les membres de ce groupe de travail, il y avait Norbert Wiener, l'homme de la cybernétique, qui est de formation un mathématicien. Il y avait John von Neumann, et il y avait Wigner, Il collaborait avec Dennis Gabor, qui a toujours vécu en Angleterre, et avec Claude Shannon. Et ce qui est très intéressant, c'est que von Neumann et Wigner et Gabor sont tous les trois nés à Budapest en 1902-1903. Que von Neumann et Wigner ont été au même lycée à Budapest. Et évidemment, ils se sont retrouvés, tout ce monde-là s'est retrouvé aux États-Unis pour fuir la barbarie nazie. Et quelle a été la problématique ? Eh bien, la problématique a été la communication, donc le programme de travail de cet Institute for the Unity of Science a été l'idée que les recherches que Claude Shannon faisait sur la communication téléphonique pouvaient avoir un rapport avec la compréhension de la structure profonde des langages humains, que les recherches que Norbert Wiener faisait sur le feedback pouvaient avoir un sens pour étudier les phénomènes biologiques et qu'il pouvait y avoir une sorte de réellement émergence de nouvelles disciplines. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce programme a été le début des cogniciences, c'est-à-dire il y a un texte absolument remarquable de von Neumann qui s'appelle « Le cerveau et l'ordinateur » dans la collection Champs de Flammarion, qui est un tout petit livre qui coûte 29 francs et qui est aussi une prophétie aussi spectaculaire que celle de Fourier sur le développement des cogniciences, et que les premières ondes LED sont nées de ce programme. Et ça, c'est quelque chose de très troublant, c'est qu'elles sont nées comme outil pour résoudre le problème de la communication et de transformer le langage sous sa forme enregistrée, c'est-à-dire le langage parlé, en suite de 0 ou de 1, c'est-à-dire c'est le premier travail de ce que j'appellerais la révolution numérique appliquée au langage. Dans son livre, d'ailleurs, von Neumann se bagarre d'une façon vraiment presque dramatique contre les, disons, des ennemis intellectuels qui veulent que les ordinateurs fonctionnent d'après des principes analogiques. Et analogiques, c'est-à-dire que les calculs se fassent en montant des expériences physiques qui simulent les calculs à faire. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer l'intégrale d'une fonction, on réalise une petite expérience de physique dont le résultat est le calcul de l'intégrale d'un courant électrique et qu'ensuite on sorte ça sous la forme d'un beau dessin comme le résultat. Et von Neumann écrit des pages qui sont tout à fait prophétiques sur le fait que c'est une aventure sans issue. Je me souviens quand j'étais jeune étudiant et que j'écoutais des exposés au Palais de la Découverte, les calculateurs analogiques qui aujourd'hui ont totalement disparu étaient présentés comme étant plus rapides et plus performants que les calculateurs numériques. Et moi-même, lorsque j'ai fait des exposés à la Thomson il y a à peu près une vingtaine d'années, je leur expliquais, je tentais de leur expliquer que l'image numérique était la voie d'avenir et devant un scepticisme total parce que l'image télévisée analogique était considérée comme une des prouesses de ces laboratoires de recherche. Ils ne voulaient absolument pas démordre de leurs résultats. Donc, von Neumann, à ce moment-là, découvre le monde numérique, c'est-à-dire l'obligation d'un dictionnaire qui puisse traduire les sons et les images en suite de 0 ou de 1, et propose le premier dictionnaire. Je vais vous montrer un transparent qui explique ce que von Neumann et Gabor avaient dans la tête à l'époque et ce qui a été ensuite perfectionné et amélioré par les gens qui ont fait des recherches sur les ondelettes. Alors je vous montre le signal de parole, un morceau de signal de parole pour vous expliquer quelle est la nature de la conversion analogique numérique. Donc ça, c'est un signal de parole sur lequel on a beaucoup travaillé pour automatiser, par exemple, une tâche qui est évidente pour l'intelligence humaine, c'est-à-dire de faire une séparation automatique en phonèmes. C'est-à-dire les phonèmes sont les morceaux de parole du signal vocal les plus courts possibles qui aient un sens linguistique. Et on voit que la structure temporelle signal de parole, donc c'est un morceau d'une phrase prononcée en français. La phrase totale, c'est « les spectateurs se sont levés dans les tribunes » et ceci correspond à « son levé dans les tribunes ». Donc, cette fin de phrase, vous avez des structures vibratoires qui correspondent aux voyelles. Vous avez des structures beaucoup plus... qui comportent une grande énergie, une grande amplitude, une grande énergie. Vous avez des choses dont la structure est beaucoup plus complexe qui correspondent aux consonnes, et les pires des consonnes sont les plosives qui sont à la fin du morceau très court d'enregistrement qui correspond à cette espèce d'enchevêtrement extrêmement bizarre. Alors, quel est le problème analogique numérique? Il s'agit de la seule donnée dont on dispose sur le signal de parole, c'est uniquement cette fonction du temps qui exprime les variations de la pression de l'air. Il n'y a pas d'autre information sur le signal de la parole. La voix la plus chère de la personne qui est la plus tendre à vos cœurs n'est pas autre chose qu'une variation de la pression de l'air en fonction du temps. Et en fait, on a l'impression qu'il y a une information extraordinairement riche dans cette fonction. Et l'idée qu'on puisse convertir ça en quelques lignes de 0 ou de 1 paraît une idée complètement absurde. Ça paraît irréaliste. Il y a trop d'informations, trop de richesses, trop d'émotions, trop de tout pour qu'on puisse faire cette espèce de compression. On comprend qu'il s'agit d'une compression et que cette traduction avec un vocabulaire si pauvre des suites de 0 de 1, c'est bien pire que le langage humain qui comporte quand même une très très grande richesse. Là, c'est une très grande pauvreté. Et donc, il fallait toute la prescience de von Neumann et de Claude Shannon qui travaillait à cet Institute for the Unity of Science pour comprendre que ceci était la voie d'avenir. On avait l'impression que le volume des suites de 0 de 1 pour transcrire une chose aussi complexe allait être pratiquement infini. Et en fait, pour le son, c'est réalisé depuis longtemps. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a à peu près une quinzaine d'années ou 17 ans, je ne me souviens plus, où là, on a eu un premier changement de la numérotation téléphonique et on a ajouté un chiffre de plus. Et c'est le moment où, effectivement, en France, le téléphone est devenu digital. C'est-à-dire, quand vous téléphonez à longue distance, vous n'avez plus la friture qui était le résultat autrefois du fait que le signal qui était transmis sur ligne téléphonique était un signal analogique. Et le signal analogique, c'est-à-dire le courant électrique, était effectivement altéré par la distance. Alors que la suite de 0 de 1, et ça, en relisant von Neumann écrit explicitement ça, ce qui montre sa préscience, qu'il n'y a aucune altération dans la transmission à distance de suite de 0 de 1. Le bruit de transmission n'intervient plus. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, votre correspondant de Chicago, vous l'entendez aussi clairement que quelqu'un qui téléphone de Nancy. Alors que, du temps de mon enfance, la distance s'entendait comme une sorte de bruit comme autrefois, quand on écoutait à la radio des stations très lointaines. Et on en revient, évidemment, à la BBC. Donc, le bruit et le... Donc vous voyez que le 18 juin reste totalement présent dans mon... cette conférence. Et donc, alors, dans le cas du son, dans le cas de la communication téléphonique, le problème a été effectivement résolu. Il n'est pas encore résolu de façon satisfaisante dans le cas de l'image. Alors là, ça paraît très curieux, parce qu'on a l'impression que l'image, c'est plus pauvre, il y a moins d'émotions dans une image que dans le son. C'est plus pauvre, mais c'est bidimensionnel, l'image. Donc l'image contient une énorme quantité d'informations. Ici, vous avez peut-être 10 000 points en abscisse, une fois que le signal est numérisé. Mais une image, vous avez 10 000 points en abscisse, 10 000 points en ordonnée. Vous voyez, donc vous avez 100 millions de points. Ensuite, il faut tenir compte de toutes les couleurs possibles et imaginables. Et donc, vous avez une quantité d'informations pour lequel le problème de compression est encore à l'heure actuelle un défi. Donc, dans le cas de l'image, et c'est ça la révolution numérique, et c'est là que les ondelettes, à l'heure actuelle, jouent un rôle extrêmement fécond, extrêmement positif. Entre parenthèses, dans le cas, malgré Gabor, dans le cas de la téléphonie, malgré ce que pensaient Gabor et Shannon, c'est-à-dire malgré les gens de l'Institute for the Unity of Science, la communication téléphonique n'utilise pas les ondelettes. C'est le son numérique Dolby qui utilise les ondelettes. Tout simplement parce qu'il y a une exigence de temps réel qui oblige à utiliser des moyens beaucoup plus primitifs, si je veux dire, que les ondelettes pour la communication téléphonique. Donc, ce n'est pas une application des ondelettes, alors que le son Dolby est explicitement le son musical, le son numérique, vous voyez, Dolby est explicitement une application des ondelettes. Donc, dans l'image, au contraire, les ondelettes jouent un rôle majeur à l'heure actuelle, et ça, quelque part, ça avait été prévu par avant que les ondelettes soient nées. Donc, de nouveau, ça se situe dans une aventure scientifique collective. Ce n'est pas une victoire des mathématiciens. Les premières personnes qui avaient traité l'image par des méthodes qui ressemblaient aux ondelettes étaient deux ingénieurs scientifiques, ingénieurs de recherche, qui s'appellent Burt et Adelson. Peter Burt est un des directeurs du laboratoire Sarnoff, qui est situé sur le campus de Princeton et qui s'occupe de haute technologie. Sauf que les algorithmes proposés par Burt et Adelson n'étaient pas très bons. Ensuite, ils ont été corrigés par Stéphane Mallat, par Ingrid Dobeschi, etc. Et la référence, le site où vous avez tous les développements à l'heure actuelle sur les ondelettes appliquées à l'image, c'est celui-là. Alors du coup, il y a les 3 W de rigueur. Et donc, c'est www.jpeg.org. Et là, vous voyez que tout ce qui va être le multimédia de demain sera basé sur la transmission des images par méthode ondelette. Je donne une application qui est très intéressante et qui illustre bien vraiment l'esprit ondelette. C'est une application qui correspond à la transmission dans le cadre de l'imagerie médicale, d'images à l'intérieur d'un même hôpital. Transmission sur les lignes téléphoniques ordinaires, c'est-à-dire qu'un service veut tout simplement avoir l'image d'une radiologie des poumons qui est effectuée dans un autre service. Et ce que permettent les ondelettes et ce que ne permettent aucune méthode précédente, parce que ça c'est vraiment la façon dont les méthodes de traitement d'images par ondelettes ont été construites, c'est ce qu'on appelle la transmission progressive, c'est-à-dire que vous avez, au fur et à mesure que l'image vous arrive, que l'image se forme sur votre écran, c'est-à-dire que le temps passe, avec une méthode ondelette, vous avez d'abord le schéma général de l'image, et ensuite les détails viennent petit à petit. Donc vous avez déjà une idée d'ensemble. Et à l'aide du pointeur, vous pouvez zoomer sur la région qui vous intéresse. Et vous pouvez le faire à ce moment-là, vous négligez automatiquement par l'utilisation de ce pointeur le restant de l'image, et à ce moment-là la transmission adopte votre décision et il n'y a aucune perte de votre allocation en bits, c'est-à-dire de votre budget de transmission qui serait gaspillé par la transmission des parties d'image qui ne vous intéressent pas. Donc au niveau par exemple de la transmission des images médicales, c'est un point qui est complètement essentiel et qui a fait immédiatement le succès des ondelettes. C'est-à-dire que c'est de la transmission intelligente. Vous pouvez zoomer sur la région qui vous intéresse, et à ce moment-là, vous ne payez plus rien pour le reste. C'est comme si un touriste, par exemple, qui s'intéresse uniquement à la visite du musée du Prado à Madrid, pouvait en quelque sorte réduire tous ses frais d'hôtel et tous ses frais de voyage en tenant compte du fait que c'est la seule chose qu'il va visiter, ce qui évidemment n'existe pas. On paye pour l'ensemble, alors que dans la transmission d'images par ondelette, vous ne payez que ce qui vous intéresse. Et ça, c'est... Alors, évidemment, on peut dire que le succès des ondelettes vient du fait que le programme, le cahier des charges du nouveau JPEG, c'est-à-dire du nouveau standard de compression des images fixes, hein, ce JPEG 2000 qui va naître dans quelques mois, qui va totalement être utilisé pour toutes les transmissions d'images, donc l'enjeu évidemment industriel est totalement fantastique, on a mis dans le cahier des charges la transmission progressive. Donc on a triché, évidemment, parce que du coup, les ondelettes étaient le seul algorithme victorieux comparé aux autres algorithmes, parce que ça a été fait pour ça, quoi. En quelque sorte, comme souvent dans les présentations de dossiers à Bruxelles, on présente comme projet scientifique quelque chose qu'un laboratoire sait faire, et sait faire de façon unique, de telle sorte que le laboratoire empoche le contrat. Donc, c'était dans le cas d'image, c'était réellement un besoin qui n'existe pas dans le cas du son, parce que dans le cas d'image, il est très rare que ce soit l'image dans son ensemble qui vous intéresse. Surtout pour un médecin, il est évident que ça va être une toute petite partie d'image qui va contenir le bord de la tumeur ou qui va contenir une chose qui l'intéresse, sur laquelle il veut un grossissement et il veut une information complémentaire. Alors, j'en reviens pour conclure à la situation des recherches sur les ondelettes. Les ondelettes, c'est un sujet à la mode parce que c'est un sujet qui touche, par exemple, l'imagerie médicale, qui est un point qui, pour moi, est très sensible. Donc, ça touche des choses qui nous importent dans notre vie d'être humain. Et en même temps, ça maintenant marque de façon très nette les limites du sujet. Les recherches mathématiques, par exemple, sur les ondelettes ont été relativement courtes. Il s'agissait tout simplement de calculer les meilleurs moyens de calcul à l'aide des ondelettes. Donc, il s'agissait de fabriquer du software. Une fois que les logiciels ont été écrits, quelque part, la recherche s'est arrêtée. Donc, cette recherche a duré 5-6 ans. Et maintenant, il ne s'agit plus d'un chapitre des mathématiques. Il s'agit tout simplement d'un outil. D'un outil qui a véritablement la vocation pluridisciplinaire qu'il avait annoncée au départ. Lors d'une des discussions avec Claude Allègre et Vincent Courtillot, ce jour-là, la discussion était très amicale, Vincent Courtillot m'a appris que les irrégularités du mouvement de rotation de la Terre sur elle-même étaient, qui sont des irrégularités très intéressantes et très fines, étaient effectivement analysées par ondelettes, chose que je ne savais pas. Et ça veut dire que l'outil est complètement passé dans les mœurs. Et c'est exactement ce qui devait devenir. Et c'est un peu, au fond, la plus belle chose qu'on pouvait rêver. Donc ce n'est plus un chapitre des sciences, c'est tout simplement comme un tournevis ou comme la découverte du microscope. Une fois que le microscope a été fourni aux scientifiques, le microscope n'appartenait plus à l'optique. Vous voyez, c'était un outil dont tout le monde pouvait se servir, quelle que soit la finalité. Et le statut des ondelettes à l'heure actuelle est exactement identique. Chaque discipline scientifique peut revendiquer cet outil, peut même prétendre avoir créé cet outil. Et s'il y a une leçon à tirer, c'est peut-être justement de l'importance des climats interdisciplinaires, des moments un peu d'exaltation scientifique, comme cet Institute for the Unity of Science, qui n'a pas survécu, évidemment, à la mort de von Neumann. La mort de von Neumann est quelque chose de particulièrement poignant. Von Neumann est mort en 57 et il est mort en écrivant ce livre qui s'appelle « L'ordinateur et le cerveau ». Et c'était une conférence qu'il devait donner à Yale. Et jusqu'à la fin, il est mort d'un cancer des os et jusqu'à la fin, il a écrit ce livre. Et ça m'amène à dire quelques mots pour conclure sur David Marr. David Marr est un neurophysiologiste, ça a été un des inventeurs des ondelettes qu'on utilise aujourd'hui et de l'application des ondelettes en traitement de l'image, un des co-inventeurs. David Marr était un neurophysiologiste qui a commencé ses études à Cambridge, en Angleterre. David Salinger connaissait très bien Marr parce qu'ils faisaient de la musique ensemble. Marr était un fin clarinettiste, David Salinger était un violoniste, ça c'est pour Jean-Pierre Kahn, et ils faisaient de la musique ensemble, ils étaient ensemble à Cambridge. Et David Marr s'intéressait à la vision, au processus neurophysiologique de la vision humaine. Et il a été appelé à travailler aux États-Unis, au MIT, sur des problèmes de robotique, parce que personne n'arrivait à simuler les capacités que le plus abruti d'entre nous a de conduire une voiture et d'éviter les obstacles. en faisant fonctionner un robot de cette façon. Faire éviter des obstacles, faire naviguer un robot dans un environnement changeant, etc., c'est toujours un défi majeur de la robotique. Donc, David Marr a été invité à travailler aux États-Unis et malheureusement, il est mort d'une leucémie. Et dans les derniers mois de sa vie, il a écrit le livre spectaculaire qui s'appelle Vision et Freeman, 1982, Freeman et la maison d'édition. Et dans ce livre, il explique réellement qu'il essaie de nous convaincre sur le fait que l'œil voit les obstacles en particulier, parce que c'était le problème de la robotique, parce qu'il fait une analyse par ondelette. Donc c'est un livre qui a été écrit avant, disons, les découvertes que, disons, Ingrid Dobeschi, Stéphane Mala et moi, et Jean Morlaix aussi, avons faites sur les ondelettes. Dans ce livre, qui est Robotique, vision humaine, vision par ordinateur, David Marr annonçait ce même programme dans un livre prophétique. Et donc c'est sur cette évocation de l'œuvre de ces grands visionnaires que je voudrais terminer cet exposé. Et j'adore les questions, donc posez-moi les questions les plus impertinentes sur aussi bien les mathématiques que le sens de la vie. Dieu existe-t-il? J'accepte toutes les questions, il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre.
J'aurais une question sur les mathématiques et les ondelettes. Donc, vous avez dit effectivement que les recherches mathématiques sont arrêtées, enfin, ont duré environ 5-6 ans. Mais de même que, comment dire, lorsque les ondelettes ont été créées, on avait vu que l'analyse de Fourier était insuffisante. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, comme actuellement il y a des recherches mathématiques sur l'analyse de Fourier dans les groupes finis et les courbes elliptiques, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des ondelettes dans les courbes elliptiques pour la factorisation des nombres premiers, par exemple?
Ah oui. Donc, c'est une très belle question, une question de spécialiste. Et il est clair que la réponse, évidemment, que je n'en sais rien. Le point, je suis d'autant plus... intéressé par la question que mes premières amours étaient la théorie des nombres. Donc, effectivement, l'idée que les ondelettes puissent servir à la théorie des nombres est quelque chose qui pour moi serait un bonheur parfait. Et la réponse est que je n'en sais rien. On voit néanmoins dans l'aventure que j'ai vécue au niveau des ondelettes, elle avait un caractère pluridisciplinaire et la problématique venait du traitement du signal et de l'image. Donc, pour moi, la relation est tout à fait claire. La relation avec la théorie des nombres, l'analyse de Fourier est utilisée à l'heure actuelle de façon infinie, puisque vous avez tous les travaux de géométrie algébrique sur des formes d'analyse de Fourier qui interviennent en géométrie algébrique. Et là, je ne sais pas.
Madame. Sorry, pardon. Oui, allez-y.
Est-ce que vous pourriez donner, pour des gens comme moi qui ne sont pas mathématiciens, la définition des ondelettes, tout simplement?
Ah oui. Alors, j'ai essayé d'éviter le défaut dont on accable les mathématiciens, c'est-à-dire de parler par définition, un langage logique, corollaire, conséquence, etc. Alors, plutôt que donner une définition, je vais vous montrer un dessin. Je vais retrouver mon transparent sur les ondelettes, oui. Ça va être très facile. Donc, je donne comme exemple, plutôt qu'une définition, je vais donner un exemple. Et votre question est importante. Hein. Cet exemple a été utilisé dans une expérience qui était commandée par Pierre Boulez à l'IRCAM. Et il s'agissait de faire de la synthèse vocale, de la synthèse du chant. Et en fait, Pierre Boulez voulait qu'on imite le grand air de la Reine de la Nuit dans la Flûte Enchantée, le moment où la Reine de la Nuit hurle son désespoir parce que sa fille a été enlevée par Zarathustra, et à ce moment-là, elle chante un chant qui est très compliqué parce qu'il y a un exercice de virtuosité étincelant et relativement dramatique et presque un peu effrayant. Et il s'agissait dans cette commande de fabriquer des atomes sonores qui, par combinaison purement algorithmique, reproduisent le vrai son de cette femme. Et c'est à ce moment-là qu'on a proposé, donc c'est un travail qui a été fait par Xavier Rodet et Jean-Sylvain Liénard, qui sont deux chercheurs. Jean-Sylvain Liénard est un chercheur au LIMSIC, un laboratoire d'acoustique à Orsay. Xavier Rodet travaillait à l'IRCAM. Il s'agissait en fait de compléter, corriger l'analyse de Fourier en utilisant au lieu d'ondes des morceaux d'ondes, d'où le nom de lettre, qui a un commencement et une fin. C'est-à-dire de simuler la partition musicale avec quelque chose qui soit l'attaque, quelque chose qui soit la note, la fréquence de la note émise, qui est la partie rouge, et une période qui est la relaxation. Alors, quelle a été la première tentative ? La première tentative a été d'utiliser des algorithmes qui travaillent en aveugle et qui ont essayé, parmi toutes les combinaisons possibles d'atomes temps-fréquence de ce type, de faire ce qui ressemblait le mieux perceptuellement à une voix chantée. Donc, c'est des recherches qui utilisaient des quantités très longues de temps de calcul. Et effectivement, quand vous descendiez au sous-sol de l'IRCAM, dont l'entrée est près de la Fontaine des Innocents, vous voyez que tous les murs sont tapissés d'ordinateurs. Et quelle a été, par rapport à cette idée intuitive, notre travail ? Notre travail a été, parmi toutes ces formes possibles, de trouver la forme qui fasse que l'algorithme de décomposition soit totalement automatique. Et ça correspond à ce qu'on appelle des bases orthonormées. C'est-à-dire, à ce moment-là, on a, en quelques secondes, on a la décomposition. Le défaut, et ça a été toutes les critiques sur les ondes LED, c'est qu'à partir du moment où on a quelque chose d'automatique, on fixe à la fois la courbe d'attaque, la courbe d'amortissement, on fixe de façon plus ou moins arbitraire les fréquences, on peut tout représenter, mais les atomes ne sont plus, par exemple, les phonèmes, ce ne sont plus les quantités perceptuelles. Là, on rentre dans une discussion qui est très complexe. Un des pionniers des ondes LED a été Jean-Claude Risset. Jean-Claude Risset est à la fois un musicien très célèbre et un physicien. Jean-Claude Risset a fait sa thèse au laboratoire Bell AT&T à Murray Hill et il a étudié la formation du son de l'attaque de la clarinette, les quelques millisecondes où le son se forme. Et précisément, l'analyse par ondes LED a pour objet de prendre en compte tous ces événements transitoires. Donc, dans l'analyse par ondes LED par rapport à l'analyse de Fourier, il y a la notion de transitoire, de prendre en compte les événements transitoires qui ont un début et une fin, qui ont une durée très courte. Et ce que remarquait Boulez, c'est que si on ne recopie pas fidèlement les transitoires, le son paraît plastique. C'est-à-dire tout ce qui est la beauté de la voix réside dans ces légères imperfections et l'analyse de Fourier vous fournit un son plastique comme la nourriture plastique qu'on vous sert dans les avions. L'analyse par ondelette, c'est tout le moelleux de la voix qui est reconstitué, qui est restitué parce que les transitoires sont pris en compte. Bon, c'est une... Je fais exprès de ne pas m'adresser à un public mathématicien pour essayer de faire comprendre de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'on a construit ? Nous, on a construit... Alors, définition de mathématicien, des bases orthonormées qui sont constituées de fonctions de ce type-là, qui ont un début et une fin, et qui permettent de prendre en compte le transitoire.
Monsieur.
Plusieurs questions. La première, beaucoup de neuroscientifiques, à ma connaissance, opposent le fonctionnement du cerveau au fonctionnement des ordinateurs, disant que le fonctionnement des ordinateurs fonctionne de façon sérielle et le fonctionnement du cerveau fonctionne en parallèle. C'est ma première question. Est-ce que vous souscrivez à ceci ?
Oui, disons, je souscris d'autant plus que je viens de relire le texte de von Neumann von Neumann oppose effectivement le fonctionnement du cerveau au fonctionnement de l'ordinateur et il n'indique pas du tout que l'ordinateur soit un modèle. Au contraire, et il donne des tas de raisons. Par exemple, il donne à la fois la rapidité de la vitesse de transmission, très lente dans le cerveau, très rapide dans le cas de l'ordinateur, le fait que la transmission soit incertaine dans le cas du cerveau, et le fait qu'effectivement, ceux-ci doivent être compensés par le parallélisme, comme vous dites, c'est-à-dire par le fait, un gigantesque parallélisme, par le fait que toute erreur puisse être corrigée par une sorte de, d'approche statistique de l'information. Mais moi-même, je ne suis pas neurophysiologiste, je dois dire que les applications des ondelettes au potentiel évoqué ont été faites par l'équipe d'Olivier Bertrand à l'INSERM de Lyon. Donc il y a, mais là de nouveau les ondelettes apparaissent uniquement comme une technique d'acquisition du signal, donc non pas du tout comme un schéma explicatif, comme vraiment un tout petit tournevis qui permet un tout petit peu de mieux acquérir, c'est-à-dire de ne pas détruire, gommer des informations pertinentes dans le processus d'acquisition. Donc ça s'arrête là, si vous voulez, l'ondelette et cerveau. J'avais indiqué von Neumann parce que l'aventure de von Neumann était une aventure vraiment fondamentalement pluridisciplinaire et qu'à cette époque de ma carrière scientifique, c'est comme si j'avais une sorte de frénésie de traverser des frontières de champs disciplinaires et je me sens très ému par l'attitude de von Neumann. Mais ceci veut dire que je suis un éternel amateur, ce dont je vous prie.
Ma deuxième question porte aussi sur le système nerveux. Stanislas Dehaene nous a fait une conférence ici même, je crois que c'est la première conférence du cycle, et qui nous a dit que l'appréhension analogique par les organismes était, dans la phylogénèse, avait commencé par l'analogique et ensuite avait abouti au digital. Est-ce que vous confirmez ceci? Est-ce qu'on pourrait faire une réflexion là-dessus?
Je ne sais pas. Ce que dit von Neumann dans son livre, en ce qui concerne le cerveau, il dit que le cerveau fonctionne d'après les deux approches, qu'il y a une partie. Von Neumann était célèbre pour pouvoir faire, et ça personne ne sait comment il le faisait, en quelques minutes, des calculs mathématiques qui, pour un mathématicien entraîné, le meilleur de son époque, demandaient plusieurs jours. Et comment fonctionnait le cerveau de von Neumann? Et ça, c'est totalement un mystère, parce que ça veut dire que ce sont des calculs. Donc, à la fin, il sortait un résultat de calcul. Ça ne pouvait pas être purement analogique, je ne sais pas. Franchement, je ne suis pas un neurophysiologiste. Le travail sur les ondelettes a été irrigué, motivé par des préoccupations, en particulier la préoccupation de David Marr. Mais évidemment, par exemple, les thèses de David Marr sont à l'heure actuelle extrêmement contestées.
Ma dernière question, est-ce qu'il y a quand même une perte d'information qui est due à au digital par rapport à l'analogique, dans ce sens que la grandeur du pixel, elle n'est pas infiniment petite?
Surtout, par exemple, dans l'image, c'est une très belle question. Les images qui nous ont transmises par Hubble sont des images qui sont déjà numériques. Ce sont des satellites d'observation de la Terre qui sont envoyés par le CNES, travaillent avec ce qu'on appelle des caméras à comptage de photons. Et les caméras à comptage de photons, de toute façon, transmettent, ce sont d'énormes matrices, et chaque petit morceau de la matrice, tout simplement, compte le nombre de photons qui arrivent. Donc, toutes les caméras CCD qui sont maintenant utilisées de façon systématique sont numériques. Donc, en réalité, il n'y aura plus de conversion dans le cas de l'image. L'image satellitaire, l'image astronomique, et même les caméras numériques qui sont vendues sur le marché. Il n'y aura plus de conversion analogique numérique parce que l'image est numérisée. Dès le départ. En ce qui concerne le son, il est clair que le son digital, pour les musiciens en particulier, je pense à Yves Elgouarch, par exemple, qui a été un des conférenciers ici. Pour des musiciens, c'est une catastrophe, dans la mesure où il y a réellement une simplification. L'oreille humaine souffre, et est un instrument d'une très grande perfection et en même temps d'une très grande sensibilité. Donc, il y a réellement une... Pour moi, par exemple, le son Dolby est une catastrophe. C'est un son qui correspond à la critique que faisait Pierre Boulez. C'est un son plastique. C'est un son qui est trop, quelque part trop cristallin, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc vous avez raison dans la perte de qualité. Le seul point dans le cas de l'image, pour revenir à l'image, donc on ne peut pas dire que le son Dolby soit à l'actif des ondelettes, et il est probable que dans cette révolution numérique, il y a une recherche de son clean, de son propre, qui soit à contre le son qui, malgré qu'il y ait des parasites, des grattements, etc., avait probablement une qualité qui a complètement été effacée par la digitalisation. Donc là, je suivrai absolument votre point. Dans le tout numérique, il y a une vision de propreté qui est donc propre. Qui dit propreté dit débruitage. En particulier, une remarque, c'est que une troisième source de recherche sur les ondelettes a été la communication à l'intérieur des équipages de bombardiers américains et anglais, tout simplement parce que le bruit de l'avion empêchait la communication. Donc le fait de débruiter la communication humaine a été un des sujets sur lesquels l'Institute for the Unity of Science a travaillé. Donc, et ces thèmes de débruitage sont spécifiquement des thèmes qu'on traite par ondelettes. Mais comme toujours, on bascule à l'extrême, c'est-à-dire qu'on fabrique des sons qui sont trop débruités, qui sont trop parfaits, de nouveau, pour transmettre une émotion humaine. Donc je suis parfaitement votre propos là-dessus.
Monsieur.
Oui, merci. Je voulais enchaîner sur les applications pratiques des ondelettes et vous demander avec deux questions. La première, c'est comment pensez-vous qu'un nouveau standard comme JPEG 2000 pourra arriver sur le marché et voir s'imposer face aux standards existants qui sont utilisés dans les appareils de prise de vue numérique, dans les DVD, y compris pour le son, et dans les transmissions numériques par satellite, etc. Et deuxième question, purement factuelle, celle-là, est-ce que JPEG 2000 incorpore le codage du son, à la différence de son aîné, le JPEG, qui avait été fait uniquement pour des applications photographiques?
Ah oui, les deux questions sont excellentes. Les deux questions sont excellentes. Alors, en fait, on a déjà basculé, parce que Motorola utilise déjà JPEG 2000. C'est-à-dire, JPEG 2000, est, tout en étant perfectionné par le comité JPEG 2000, est déjà utilisé, évidemment, tout simplement parce que sinon les gens ne pourraient pas expérimenter et se rendre compte des forces et des faiblesses. Donc Java utilise JPEG 2000, Motorola utilise JPEG 2000. Alors là, je vous renvoie au site. Toutes mes informations, je les ai grâce au site. Et donc, je vous renvoie au site. En plus, j'ai dans mon bureau exactement la description de JPEG 2000. Donc 50 pages de description de JPEG 2000. Non, ça y est, c'est déjà fait. Il y a eu un moment, c'est-à-dire qu'ils ont fait... les gens qui ont travaillé dans les ondelettes ont cédé à cette espèce de fièvre d'annoncer des résultats qui ne tenaient pas encore. Et dans le cas du standard JPEG 2000, il y a eu des annonces fracassantes que je déteste toujours. Ma formation va plutôt, comme tout mathématicien, vers une lucidité anxieuse. Mais on ne peut pas s'empêcher de travailler avec des gens qui veulent des résultats rapides et qui annoncent les résultats avant qu'ils ne soient avérés. Le comité JPEG 2000 a pris du travail. Ça s'appelait JPEG 2000. Ils ne promettent maintenant qu'en mars 2001 les dernières spécifications. Mais c'est totalement avéré que c'est basé sur des ondelettes. C'est des ondelettes à coefficient entier qui ont été découvertes par Ingrid Dobeschi avec des filtres bi-orthogonaux découverts par Albert Cohen, etc. Donc c'est réellement maintenant un fait industriel. Et sans que vous vous en aperceviez, effectivement, beaucoup d'images qui transitent par le web. Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas une puce, c'est du software. JPEG 2000 se présente sous forme de software. Donc, l'intégration industrielle est réelle et son échelle va être évidemment l'échelle de toutes les transmissions d'images. Pour les images fixes, et il y a aussi une partie du programme qui est la vidéo. Alors, en ce qui concerne à incorporer le son, c'est évident que ça va être une des... Mais je ne l'ai pas lu pour le moment sur la description. De la partie réalisée. La partie réalisée, c'est la transmission des images fixes.
Monsieur,
s'il vous plaît, quel est le principe, et j'allais dire l'astuce, qui permet de faire des zooms?
Ah oui, le principe, c'est d'utiliser la multirésolution. C'est-à-dire que, alors, vous avez donc, là, ça m'amène à rentrer un peu plus dans des définitions précises. Dans la famille des ondelettes, c'est comme le jeu de cette famille, vous avez les ondelettes qui servent à l'acoustique, au son audio, qui sont ce qu'on appelle les ondelettes en fréquence, ou le paramètre, qui sont exactement l'imitation des notes musicales, où la durée est cependant fixe. Ce qui varie, c'est évidemment l'instant de l'attaque, l'instant de la fin de la note et la fréquence. Donc, ça correspond, la décomposition en ondelettes temps-fréquence correspond à la dictée musicale, l'exercice qu'on fait quand on apprend le piano. L'institutrice joue quelque chose au piano et les enfants sont supposés écrire les notes. On appelle ça la dictée musicale. L'analyse par ondelettes en fréquence, vous faites ça de façon automatique et en restituant tout, en restituant toutes les, le fait que la note ne soit pas frappée avec une attaque suffisamment souple, etc. Donc, en revanche, en ce qui concerne l'image, on joue sur une autre idée, sur une autre astuce. C'est-à-dire qu'on a une ondelette mère, qui est le motif qui va être utilisé systématiquement, et ce qu'on fait, c'est qu'on change d'échelle, c'est-à-dire l'ondelette va être contractée et dilatée. Alors ça, c'était une idée qui est venue de Jean Morlaix, lorsque cet ingénieur qui a travaillé toute sa vie pour Elf Aquitaine et qui a été le pionnier, le visionnaire des ondelettes qui vont s'appliquer au traitement d'image, a observé que les ondelettes temps fréquence qui avaient été déjà prévues par Gabor, hein, qui étaient utilisées depuis Shannon, Gabor, etc., ne convenaient pas pour les enregistrements de sismiques par réflexion qui devaient étudier pour les campagnes de prospection pétrolière de Elf Aquitaine. Donc, parce qu'il y avait des transitoires, que c'est la première méthode, des transitoires extrêmement brutales que la première méthode ne permettait pas d'appréhender, pour laquelle il fallait des zooms. Alors, on incorpore le zoom dans l'outil. En quelque sorte, l'astuce, c'est d'incorporer le zoom dans l'outil, c'est-à-dire des ondelettes de toute largeur qu'on joue comme un accordéon. Mais évidemment, il fallait en même temps ne pas perdre la puissance de calcul, c'est-à-dire avoir une base orthonormée pour avoir en quelque sorte un calcul instantané. Et alors, c'est ça qui a nécessité de grands travaux. C'est-à-dire, c'est là qu'interviennent Stéphane Malat, Ingrid Dobuschi et toute une équipe réunie autour d'un physicien qui s'appelle Alex Rossmann, auquel je voulais rendre hommage aujourd'hui, et qui est né en Yougoslavie et qui sait à peu près 17 langues et qui travaille toujours au Centre de physique théorique de Marseille-Lumini, Alex Rossmann et Jean Morlaix, qui ont en quelque sorte réuni autour d'eux une équipe de jeunes, plus jeunes qu'eux, et qui ont fabriqué ces ondelettes qui permettent de faire du zoom et qui sont utilisées spécifiquement pour l'image et qui ne sont pas utilisées pour le son. Donc il y a deux familles dans la famille ondelette, il y a deux sortes d'outils, ceux pour l'image, pour lesquels la notion d'échelle, la notion de zoom et la notion prioritaire, ceux qui sont utilisés pour le son, pour lesquels la fréquence instantanée, c'est-à-dire la note, est l'idée de base.
Est-ce que ceci n'augmente pas d'une manière considérable les bandes passantes nécessaires ?
Vous avez tout à fait raison. Vous avez... les ondelettes qui sont utilisées pour l'image... correspondent aux octaves, c'est-à-dire que vous avez chaque ondelette occupe une octave entière, alors que les ondelettes évidemment en fréquence sont beaucoup plus finement ajustées au niveau fréquentiel. Au point de vue bande passante, ça correspond en réalité à une idée, ça a eu un succès immédiat parce que ça correspond à l'idée que tout le monde savait, que pour l'image, l'inverse d'une échelle est une fréquence, c'est-à-dire que si vous voulez des détails à très petite échelle, c'est-à-dire une discontinuité brutale, vous devez utiliser des fréquences assez élevées. Et qu'il n'y a pas... Ça, c'est le principe de l'incertitude de Heisenberg, sur lequel on bloque, c'est que l'inverse d'une échelle soit une fréquence. Or, les ondelettes qu'on a construites sont exactement la transcription algorithmique exacte, aussi exacte qu'une table de multiplication, de la relation de l'incertitude de Heisenberg. Et c'est pour ça que ça a été un must, évidemment. Ça a été magnifique. Et que les gens, pour l'image, se sont précipités dessus. Alors, évidemment, la réalité industrielle, comme disait mon collègue Martin Vetterli, qui travaille à l'École polytechnique de Lausanne, il disait qu'évidemment, les ingénieurs avaient travaillé pendant 25 ans sur l'ancien JPEG en serrant tous les boulons, et ils se moquaient de nous en disant que nous, on était sûrs de n'y arriver jamais avec nos ondelettes, parce qu'il n'y avait pas l'épaisseur de temps. Et finalement, on a gagné aujourd'hui, JPEG est balayé, par le JPEG 2000. Mais ça correspondait, disons, on a gagné parce qu'on a respecté la physique, je dirais, de façon... Et c'est pour ça que la théorie des ondelettes n'est pas un chapitre des mathématiques.
Une dernière question.
Oui, bonjour, monsieur. Pour revenir dans la rubrique des faits pratiques, deux choses très rapidement. D'abord, je suis consommateur, je ne suis pas scientifique, je ne suis plus scientifique, et je voudrais savoir si dans les micro-ondes, il n'y a pas des micro-ondelettes, premièrement. Et deuxièmement, rapidement, je vais vous demander une chose. Il y a actuellement, on avait vu dans une conférence précédemment, il y a des possibilités d'utiliser des prothèses et des greffes et autres stimuli pour activer les nerfs des gars, par exemple, paraplégiques et autres, pour permettre un jour qu'ils remarchent, enfin, les pauvres. Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser les micro-ondelettes. Dans, ou les ondelettes tout court. Merci, monsieur.
Voilà, donc la confusion entre micro-ondes, le four à micro-ondes et les ondelettes, c'était une très jolie remarque qui avait été faite. J'avais fait un exposé en Espagne, et effectivement, le journaliste avait conclu que je travaillais sur les fours à micro-ondes. Mais j'avais dû être particulièrement maladroit dans mes explications. Alors, il y a, comme disait mon maître Zygmunt, dans toute erreur, il y a une immense part de vérité. Et cette erreur de confusion, il y a une technique qui est le laser femtoseconde à l'heure actuelle, qui arrive à envoyer des flashs de lumière où on a à peine le temps de voir deux ou trois longueurs d'onde. Ça permet de photographier, par exemple, des réactions moléculaires. C'est des événements extrêmement transitoires, extrêmement court et qui n'était pas accessible avant par aucune technique visuelle. Et en fait, toutes les recherches sur les ondelettes ne sont que la forme algorithmique du laser femtoseconde. Donc en réalité, vous avez profondément raison, mais c'est au niveau du laser. Ce n'est pas au niveau du four à micro-ondes, c'est au niveau de la sorte de flash d'instantané que permet le rayonnement laser.
Bien, merci.